Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu es nu et mort sur une table d'autopsie. Un mort qui bouge encore, un macabé qui drague l'étudiante en médecine qu'il surnomme Egoïne. La belle t'arrache le cœur, ouvre le crâne et coupe la langue. Mais tu ne regrettes pas d'avoir légué ton vieux corps à la science. Tu te marres tout seul dans le silence éternel et tu te trouves plutôt sexy avec tes tripes à l'air durant ce dernier striptease. Dans tes rêves, une femme pose chaque année devant un photographe. 30 photos et autant d'années plus tard, l'image est la même, figée. Pas une seule ride, aucun signe du temps qui passe sur elle. La femme qui ne vieillissait pas à 30 ans, éternellement. Elle ne sera jamais une petite vieille sur un banc public. Elle aura bientôt l'air plus jeune que son fils. Elle sera toujours parfaite comme dans la pub et ça la rend un peu triste. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on réveillait un petit peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, humoriste, acteur, réalisateur, exploreur, fictionneur de l'après avec son éternel humour noir. Mon autopsie chez Stock, c'est sa drôle d'autobiographie post-mortem. Bonjour, bonsoir Jean-Louis Fournier.
Bonsoir.
Je me suis librement inspirée de vos mots. Franchement, imaginez son autopsie de son propre vivant. Où allez-vous chercher tout ça? Je crois savoir que c'est une question qu'on vous pose.
Où
depuis...
je vais chercher tout ça?
Il n'y
a, a pas une pièce où c'est rangé, les idées. Elles arrivent quand on les a. Non, simplement, si vous voulez, j'étais arrivé à un âge canonique qui m'autorisait à écrire des mémoires. J'ai des contemporains qui écrivent leurs mémoires. Et moi, je n'ai pas eu le culot d'écrire mes mémoires parce que je ne suis ni Pascal, ni Montaigne, je n'ai pas de choses exceptionnelles à délivrer au lecteur.
Oui.
Simplement peut-être les plaisanter, les faire rire. Et j'ai pensé que une autopsie, c'était plus rigolo que des mémoires.
Ah oui, ça, enfin, ça dépend
et puis,
du moment.
En plus,
mais bon.
Si vous voulez, c'est pas complètement idiot parce que on dit souvent, dans le langage commun, on dit par exemple, ce type, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête.
Oui.
Ce type, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le cœur. Ce type, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans le ventre. Eh ben moi, j'ai pris au pied de la lettre ce genre de choses. Et je dis toujours, quand on veut savoir ce qu'il y a dans une boîte, on l'ouvre. Pour un homme, c'est pareil. Alors, ouvrez-moi.
Ouvrez-moi. Je m'ouvre. Et le pire, ce que vous racontez dans cette fiction, c'est couper la langue. Moi qui ai toujours passé mon temps à couper la parole des autres. Alors là, par contre, couper la langue de Fournier.
C'est un gros sacrifice quand on est là.
Et je sens que la langue va être bien poétique ce soir avec vous. Mon second est écrivain, publicitaire, conteur du temps qui passe ou pas. La femme qui ne vieillissait pas, c'est chez Lattès, une fable sur ce fameux rêve cauchemar de l'éternelle jeunesse revisitée d'ailleurs par les post-humanistes. On en reparlera. Bonjour, bonsoir Grégoire Delacour.
Bonsoir Laurent.
Dans la vraie vie, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé léguer votre corps à la science, mais devenir éternel, c'est pas qu'un fantasme féminin, ça vous travaille ça, vous?
Pas du tout. L'éternité, c'est un truc qui me terrifie. Je pense que je m'ennuierais terriblement cet après la 397e saison de Grey Anatomy. Ça serait monstrueux. Il n'y aurait rien qui se renouvellerait. Ça serait une sorte de musée Grévin qui bouge. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'idée d'une jeunesse qui dure, d'une période de la vie comme ça, magique, qui durerait longtemps, ça c'est un joli rêve.
Ouais. Et 30 ans, parce que cette narratrice, cette femme qui ne vieillit pas, s'arrête à 30 ans. C'est le plus bel âge de la vie, 30 ans?
Non, c'est un âge romanesque. C'est entre 30 et 40. Parce que je voulais pas perdre trop de temps techniquement à raconter sa vie avant. Donc si je l'avais arrêté à 50 ans, ça faisait un gros livre où pendant 50 ans, il se passe pas grand-chose.
Ah, c'est juste technique alors.
Oui, c'est technique, mais je trouve qu'à 30 ans, aujourd'hui, les femmes sont normalement libres, économiquement, je veux dire. Elles ont un boulot, elles ont des enfants assez tard, ça commence à 30 ans. C'est le moment où tout est possible. Elles savent
et
ce qu'elles veulent.
Et après, c'est foutu
Non, après, on en profite. Après, on a plein de réinventions de vie possibles.
Ouais.
Mais 30 ans, je trouve, à mon âge, à 20, 23, 3, c'était le début de tout. Là, je pense qu'à 30 ans, c'est bien. Ça serait bien. Si j'étais une femme, ce que je suis un peu, avoir 30 ans longtemps, j'aimerais bien.
Ouais. Si j'étais une femme, que je suis un peu. Vous avez quel âge dans votre tête, vous, Jean-Louis Fournier ?
J'ai pas d'âge, ça dépend des jours.
Ah oui, c'est vrai. Souvent, on dit qu'on a, on a plusieurs âges dans la même journée.
Ça dépend des jours.
Et là ?
100 ans.
Ça va.
À peine, un petit 100 ans.
Oh, tu les fais.
Mais je suis comme Grégoire, au niveau de l'éternité. Je pense que c'est la tuile la plus terrible qu'on pourrait offrir à quelqu'un, c'est l'éternité.
Ouh, ah, ça dépend dans quel état.
Ah non, oui, non mais même. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.
Oui, c'est pareil.
En général.
Oui.
Tout ce qui est court est mieux que ce qui est long.
D'accord. Bon, comme ça, je réfléchis.
Mais faut être léger.
Voilà. Bah, c'est ce qu'on va tenter de faire ce soir. Vous connaissez dans la vraie vie, chacun a lu l'autre. Vous appréciez, c'est d'ailleurs.
Oh bah oui.
Non, mais l'amitié, ça peut être rare hein, entre écrivains.
On ne s'aime pas, mais on s'apprécie.
Ah.
Moi, je l'aime bien quand même.
Ah, moi, je l'aime bien quand même. D'ailleurs, moi, j'ai lu ces deux livres en même temps, Mon autopsie et Cette femme qui ne vieillissait pas. Les titres résonnent bien. Il y a vraiment là un air de famille dans vos imaginaires respectifs, quelque part.
Bah oui, on aime bien rentrer dans le cœur des gens, comme disait Jean-Louis. Lui, il rentre dans le cœur des gens qui lui manquent, quoi, qu'il a peut-être pas assez dit qu'il les aimait du temps de leur vivant. Donc, il fait une œuvre comme ça, très personnelle, autour de sa famille, avec son papa, sa maman, ses deux garçons, sa fille, sa femme. Je tiens à profiter de répéter que Veuf est probablement un des plus grands livres de Jean-Louis, qu'il n'y a pas que Où on va papa. Et moi, je fais pareil, mais avec des fictions. C'est-à-dire que, voilà, avec des personnages que j'invente, mais je crois qu'on cherche la même chose, à apaiser de façon charmante nos cauchemars, nos frayeurs, le fait qu'on était abandonné ou battu par les vents et la vie. Et c'est en ça qu'on se rejoint, bien que nos écritures, si elles procèdent de la même élégance polie, à savoir d'être dégraissé, de ne pas être bavard, d'être courte, comme vient de dire Jean-Louis, on a un univers très différent, mais qui se rejoint sur un fond d'humanité joyeusement désespéré.
Joyeusement désespéré, vous vous dites...
Oui. Joyeusement désespéré, c'est pas mal ça, ouais. C'est vrai. Je pense que c'est ça. Oui, on est joyeusement désespéré.
Et en même temps, vous nous faites quelque part, nous lecteurs, rire.
Ça, c'est toujours le côté joyeux.
Voilà, il faut quand même de tout ce qui fait peur. La mort, la vieillesse, l'après.
C'est la façon de conjurer les choses insupportables, c'est de les rendre drôles.
Oui.
Faut surtout jamais ajouter du drame au drame. Le drame n'a pas besoin. En revanche, je pense qu'on peut prendre de la distance à l'égard des drames. Moi, j'ai eu quelques tuiles qui me sont tombées sur la tête pendant ma vie. Et vous savez pourquoi on dit des tuiles ?
Non.
Parce que ça vient du ciel. Et tous les drames viennent du ciel. Et Dieu m'a envoyé des tuiles sur la tête. Et j'ai eu des tuiles. Si je n'avais pas écrit et si je n'avais pas essayé de plaisanter avec ces drames,
oui,
je ne serais pas là. Ou je serais ailleurs, mais j'aurais très mal tourné.
Vous parlez de l'humour comme un détergent, Jean-Louis Fournier.
Ah, c'est un détergent. Ouais. C'est un langage au second degré. Oui, je crois que c'est un détergent. Moi, j'ai une image, si vous voulez. Je pense que le rire, c'est un peu comme la pyrolyse dans un four. Vous savez, quand un four est
sale... J'aime beaucoup les images.
Quand un four est sale,
oui,
on met la pyrolyse et la pyrolyse, ça brûle tout. Et le rire, ça brûle toutes les cochonneries. Quand on a ri, j'ai l'impression que tout est propre.
Il faut juste passer un petit coup d'éponge après, quand même.
Ouais, un petit coup d'éponge,
hein, c'est ça.
Moi, je crois que le rire, c'est vachement important. C'est Wolinski qui disait que c'était le plus court chemin d'un homme à un autre. Et je crois que c'est vraiment important. Mais attention, rire de qualité.
Ah oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous l'agrez votre corps dans la vraie vie à la science.
Oh non, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça.
Si la science en
veut. Veut
moi,
bien
ce qui
moi.
Est génial, c'est que ma mère, par exemple, ma vieille mère qui n'est plus de ce monde,
ouais,
et a voulu donner son corps à la science, et la science l'a refusé. C'était une plante. C'était un problème de stockage. Je pense que ce n'était pas la qualité de ce qu'elle proposait.
On la rassurait comme ça. Comme vous pouvez écrire dans cette autopsie fictionnelle, je suis dure à couper, j'espère qu'elle aime les vieux, parce que en fait, le futur Maccabée drague en plus l'étudiante en médecine qui vous découpe, vrai, qui vous insiste, qui vous voilà, je suis dure à couper quand
ah
même.
Ben je suis pas de l'agneau, hein. Je suis de viande des grisons plutôt.
Mais j'espère qu'elle aime les vieux quand même, il y a toujours la séduction post-mortem, voilà, à dire tiens, jusqu'au bout.
Les filles intelligentes aiment toujours les vieux.
Les filles intelligentes aiment toujours les vieux.
Vous n'êtes qu'à regarder autour de vous.
Ça, c'est sûr. Eh ben, je sens qu'on va bien voyager dans l'au-delà avec vous. Je sais pas si vous le savez, c'est une rêve partie anti-blues du dimanche soir. Vous n'avez jamais le blues, vous, le dimanche soir, dans ce temps suspendu, justement,
si c'était seulement
morts.
Le dimanche soir, ça serait... Ça...
Non, je vous crois pas tous les soirs, quand même.
Non, moi, je n'ai plus ce blues du dimanche. Mmh. Je l'avais quand il fallait rentrer à l'école, quand il fallait aller bosser le matin. Il n'y avait pas toutes les choses d'aujourd'hui, les écrans, donc on regardait tous le même film.
Uniformisation.
TF1. Vous vous souvenez, on regardait, et on se voyait tous à la machine à café. Donc, t'as vu L'Arme fatale, alors, oh, c'est nul, c'est bien. Il y avait des discussions qui servaient strictement à rien pendant une heure. Et celui qui n'avait pas vu, il était exclu, il n'avait rien à dire de son week-end. Et là, j'avais le blues quand même de ce moment un peu où on se remet en marche comme ça dans l'entreprise de le
après avoir
matin.
Vu L'Arme fatale, oui. La veille. Voilà pour la rêve partie jusqu'à minuit avec deux écrivains. Vous postez vos songes sur notre page Facebook Dans tes rêves, la rêve partie anti-blues, donc du dimanche soir. Mais tenez par le gang des rêveuses, Céline Mila, la réalisation, Nadia Chougui, la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir à la technique, notre rêveur, Théo Lacombrade. Belle soirée.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. I don't you know she's all right. I don't you know she's all right. She's all right, she's all right.
C'est Ray Charles et c'est bien sur France Inter.
Dans tes rêves.
Ça t'arrive de rêver? Est-ce que tu seras plus tard?
Est-ce que je serai plus tard? Oui. Est-ce que je serai pas moi?
Tu seras toujours toi, mais un autre genre de toi.
Laurence Garcia sur France Inter.
Et nos deux invités ce soir, les écrivains Jean-Louis Fournier et Grégoire Delacour. Et comme à chaque fois, on explore l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient. D'ailleurs, vous êtes tous les deux hommes du Nord, j'ai remarqué.
Oui.
Jean-Louis Fournier, il paraît qu'à votre naissance, vous ne respiriez pas. C'est de la fiction, c'est romancé?
Non, c'est pas de la blague. Mon père était médecin.
Oui.
Et je crois que l'accouchement a dû se faire chez nous, à la maison. Et mon père m'a pris comme on prend les lapins.
À l'envers?
Par le haut. Les pattes arrière comme ça, et puis il m'a secoué.
Ah, tu étais donc un bébé secoué. Ah,
ceci explique peut-être cela.
Voilà.
Ah, il m'a secoué,
l'intérieur,
et
ça
tout
s'est dérangé.
Coup, j'ai décidé de vivre.
Alors, vous, le père, vous en avez souvent parlé, mais quand même, quelle figure, humour, waouh, quoi.
Ça a dépassé l'humour, je crois. Alcoolique ouais. Au dernier degré, mort à 43 ans.
Ouais.
Ayant quatre enfants et ne faisant pas payer ses clients. Donc ma mère devait travailler pour nous nourrir.
Et avant tout ça, c'est un personnage assez insaisissable. Il paraît qu'il mimait son suicide.
Il se suicidait à table, il aimait bien faire ça le dimanche. Il aimait bien mettre de l'animation. Et au repas, ça je m'en souviens encore, j'avais 10 ans, et il arrivait souvent en retard. Bon, ça c'était logique parce qu'il avait des visites. C'était le repas du dimanche où c'était plutôt une ambiance assez charmante avec mes frères et ma mère. Et il arrivait tout d'un coup avec un haricot. Vous voyez ce que c'est, les haricots?
Bah, l'espèce
de, c'est les vases qu'on met pour recueillir le sang, les trucs dans les trucs de labo.
Ah oui?
Oui, ça s'appelle un haricot.
D'accord. Et alors, vois la suite.
Il mettait sur la table, il prenait un bistouri, puis il s'ouvrait la veine. Et puis il essayait de dégoûter son sang dans
le haricot. Pour pas que ça, c'est au moins gentil pour pas salir la nappe. Voilà.
Alors, ça, c'est et nous, on était la première fois.
Mais c'est effrayant
pour les gars. Notre mère, qui était très fine, ne faisait aucune allusion à ça. Elle disait pas, oh là là, arrête! Ce qui aurait été. il faisait du théâtre. Il voulait être
en famille.
Étonnant. Et donc, et elle continuait à parler. Resserre-toi, ça se passe bien, vos études.
L'air de rien.
Qu'est-ce qui s'est passé cette
semaine? Puis il voyait son sang qui pissait.
Et tout d'un coup, il dit, tiens, je vais me vider de mon sang. Puis à un moment, il partait, il allait se mettre un pansement. Puis c'était.
Mais c'est vrai que
l'épisode était.
Cyrulnik dit de vous que vous êtes un résilient.
Bah, il paraît, oui.
Ouais.
C'est-à-dire que si vous voulez, ce qui vous détruit pas complètement, paraît-il, vous fortifie.
Paraît-il.
On peut toujours le dire. Quand on soigne une tuile sur la tête qui vous ouvre le crâne, on n'a pas le crâne plus solide après, j'ai l'impression.
Les fameuses tuiles. Alors la maman, vous en parlez, la maman courage, hypochondriaque aussi.
Il fallait mieux avoir du courage quand on est marié avec ce genre d'outils.
J'imagine.
Et puis quand on a eu un fils comme moi, puis mes frères et tout ça, on n'était pas des très faciles.
Une maman qui, paraît-il, vous a inspiré cette créature-là.
Allô?
Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil.
Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore?
Mes cornes ramollissent.
Vos cornes ramollissent?
Enfin que faire docteur, si vraiment elles ramollissent?
Eh bien trempez-les dans l'amidon, à bientôt la Noiraude.
Dans l'amidon?
C'est vrai, honnêtement, Jean-Louis Fournier, que vous avez inventé cette Noiraude, cette vache hypochondriaque.
Pas seulement, j'avais une autre raison, c'est que j'avais un vétérinaire qui habitait à côté de chez moi, et le téléphone sonnait quelquefois le dimanche, et je disais à ma femme, quand le téléphone sonne chez un docteur, c'est une malade qui appelle, et chez le vétérinaire, c'est une vache. Et chaque fois, je disais, tiens, il y a une vache qui appelle le vétérinaire. Mais alors, en plus, j'ai créé un personnage de vache hypochondriaque.
Oui.
Et ma mère était.
C'est pour ça.
Hypochondriaque au dernier moment.
Elle était prof de lettres aussi, non?
Elle était prof de lettres, oui.
Donc forcément.
Mais hypochondriaque. Mais elle avait surtout lu tous les livres de mon père. Et elle connaissait tous les symptômes. Alors, elle a eu 10 fois le tétanos, elle a eu des tumeurs au cerveau. On était au courant de chaque fois. On pensait qu'on. La première fois, elle s'est piquée.
Elle a annoncé plusieurs fois sa mort.
Elle nous disait, elle s'était piquée dans un. Elle s'était piquée avec une rose. Et au repas, elle nous a dit : je vais mourir du tétanos dans 13 jours.
Eh ben, dites
c'est
donc.
13 jours.
C'est sympa, les repas.
C'est sympa, les dîners de famille.
Le papa
chez
qui se vide de son sang et la maman qui annonce son tétanos.
C'est 13 jours quand on se pique à la main et 23. Alors, nous, on attendait. Moi, sur mon agenda, j'avais marqué. Alors, j'avais calculé. Ah, ben, tiens, c'est un samedi. J'ai mort de maman. Et le lundi, elle était encore là. Alors, je lui dis, tu mens. Tu nous racontes des blagues.
Non,
elle dit, cette fois-ci, c'était pas vrai. Puis, elle a eu quelques fois d'autres tétanos aussi.
On comprend mieux l'humour noir aussi de l'écrivain que vous êtes. En parlant d'agenda, c'est vrai que vous avez marqué, vous savez, il y a une rubrique « Personne à prévenir en cas d'accident », vous avez marqué « Dieu ». La preuve.
Ah non, c'est pas de la blague, donc j'invente pas des trucs comme ça. Bah, quelle est la personne la plus importante à prévenir, sinon Dieu ?
C'est-à-dire, vous avez un rapport un peu bizarre avec Dieu. Vous avez été en école religieuse aussi, hein. Vous avez été viré l'école religieuse aussi, non ?
14 ans, ouais. Chez les prêtres.
Pourquoi vous avez été viré ?
Parce que j'ai mis la Sainte Vierge dans les chiottes. Parce que je la trouvais trop moche. C'était une statue Saint-Sulpicienne très vulgaire et je pense que la Sainte Vierge devait être très blessée. Et je l'ai mise dans. C'était formidable. Vous savez, dans les collèges, il y avait des rangées de.
Toilettes.
De toilettes. Et c'était des toilettes à la turque.
Oui.
Donc je suis rentré comme ça. Elle était presque aussi grande que moi. Je l'ai rentrée dans les chiottes, je me suis enfermé, puis je l'ai posée juste. Sur le trou, là.
En train de vous regarder faire pipi.
J'ai laissé ma jointe, puis il y avait la chasse d'eau avec le tuyau, et puis j'ai laissé la porte ouverte. Alors tout le monde. La Vierge dans les chiottes. C'était beau comme un tableau surréaliste. J'étais foutu à la porte.
Bah, tiens, ça ne m'étonne pas trop. En même temps, vous qui aimez les mots, le mot libertaire, ça vous ressemble, Jean-Louis Fournier, ou pas?
Moi, je suis fou de liberté, quoi. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on touche. Mais libertaire, c'est différent. Qu'est-ce que ça veut dire, libertaire?
Je ne sais pas. Chacun peut
libertaire, je ne sais pas. C'est un mot étrange. J'aurais de la peine à le définir, d'ailleurs. Mais liberté, oui. Liberté chérie.
Alors, autre décor d'enfance avec c'est vous, fou, hein. Grégoire Delacour, un papa qui tenait un magasin de tissus, hein, c'est
oui,
ça
oui.
Un peu au petit bonheur.
Non, au bonheur des dames, au grand bonheur. Hein, les gens venaient de loin, d'Arras, de Douai, de Cambrai, de Maubeuge. C'était le grand magasin du Nord, qui embellissait les rêves des femmes, qui les habillait, des soieries, des tissus formidables au mètre, comme on faisait plus. Moi, je me souviens des tissus comme ça qui se déroulaient sur les longs bureaux, et quand ils coupaient la soie, ça faisait un bruit, c'était extraordinaire. Ah non, c'était beau, les femmes rêvaient dans ce magasin.
Vous, à l'inverse, parce qu'on parlait des repas de famille un peu particuliers chez les Fournier, quoi, une famille entre non-dits, engueulades
Oui, c'est compliqué. Mes parents ne s'entendaient pas, en fait. Au Moyen-Âge, ça veut dire s'aimer, s'entendre. Hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très tôt qu'ils n'entendaient pas la même chose avec les mêmes mots. C'est-à-dire que quand beau, ça pouvait être laid pour l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un langage commun aux deux, et c'est assez violent parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'entend pas, et donc il cassait des mots, il se cassait pas la figure parce qu'il y avait de la retenue, on était quand même bien élevé, petite bourgeoisie du Nord, catholique, gentille.
Vous étiez en pension, vous?
Ouais, très tôt, à 10 ans, j'ai demandé à partir.
Et c'est vous qui avez demandé à partir?
Ouais, à 9 ans, en pensant qu'ils allaient me garder, en disant non, on t'aime, t'inquiète pas, parce que c'est moi j'ai 4 enfants, j'imaginais qu'un des 4 ait pu me dire à 9 ans, papa, j'en ai marre de ta vie avec maman, je veux partir. C'est non, on va arranger tout ça, reste là. Et non, là, ils m'ont dit, pas de bol, ils m'ont dit, ok, tu t'en vas. Et je me suis retrouvé à 10 ans, la Providence à Amiens, dont on a parlé il y a un an, parce que un autre célèbre jeune homme en est sorti avec un professeur, celui-ci. Et c'était terrible et en même temps très joyeux de se retrouver là à 10 ans.
Une autre famille
en pension.
Une
famille de à la fois avec des sauvageons qui a redoublé, qui avait 12 ans, et entre 10 et 12 ans, c'est un monde d'âge, de valeur, de petits poils au menton pour suite 12 ans, et 10 ans, c'est encore très 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 petit, j'étais en 6e. Donc cette brutalité-là, essayer de s'organiser, de vivre et de survivre dans un endroit compliqué, un collège de jésuites, c'était assez dur, et en même temps, j'aimais bien qu'il y ait des règles, j'aimais bien comprendre le pourquoi des choses, pourquoi on doit obéir, pourquoi on doit apprendre. On nous apprenait à apprendre. Donc finalement, j'ai bien aimé, et je crois que plus tard dans la vie, ça m'a évité de faire les mauvais choix.
Et peut-être que dans cette pension-là, le jeune gamin que vous étiez rêvait à cette voix-là.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
Romy Schneider, la chanson d'Hélène avec Piccoli.
Piccoli,
dans
c'est
les choses
Sard,
de la vie.
Crois,
c'est
qui, Philippe Sard, je crois.
Comment?
C'est Sard.
Oui,
c'est Sard.
Et c'est dans le film de Claude Sauté.
Ouais, ça c'est extraordinaire. Claude Sauté, ça a été ma je sais pas, la grande baffe que j'ai prise en allant au cinéma dans les années 70, le week-end à Valenciennes, quand j'ai découvert ça, ces gens-là, ces gens beaux, ces problématiques de l'intime, en fait, de la famille, du couple.
Ces familles qui se parlent vraiment,
et qui peuvent chercher à être heureux et à se le dire. Et moi, je connaissais pas ça, et ça m'a encouragé dans l'idée qu'il y a toujours quelque part une famille à soi qui peut nous accueillir, dans laquelle on peut être épanoui et heureux. Puis il faut la fabriquer, ça prend du temps. Et être cassé dans l'enfance, c'est pas forcément mal, parce qu'on peut se refaire, en fait, on peut se redessiner mieux.
Ouais, d'où les seconds départs.
Ouais. Et ça, j'aime bien. Je crois que tous mes livres, c'est des nouveaux départs qui sont donnés aux personnages. Et j'aime bien ça, j'aime bien la chance qu'on a de se donner une chance, justement, chacun.
Les nouveaux départs, quels que soient les âges, on en reparle avec vous. Grégoire Delacour et Jean-Louis Fournier qui n'arrêtent pas de prendre des petites notes. On regardera tout à l'heure ce que c'est. À tout de suite.
Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges. Je te détache, tu me dérives. Oh, tu m'as encore. Oh, tu me tues. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit.
oh, oh. Je te haut, tu me noies. Je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit. 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 Assassine. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grand large, je te détache, tu me dérives. Oh, tu moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit.
Une belle voix de la nuit, Arthur H. Et forcément, on pense à l'autre H, Jacques le Paternel, le poète éternel.
Dans tes rêves.
Mes cheveux n'avaient que peu de gris et poussaient comme de l'herbe. Mon sens de l'odorat était plus aigu, mon ouïe plus fine. Je pouvais marcher plus longtemps et plus vite. Alors que tous les autres vieillissaient, je devenais plus jeune, tout seul.
Laurence Garcia.
Entrez.
Sur France Inter.
Un bébé qui naît vieux et qui rajeunit tout au long de sa vie, la vie à rebours. Vous avez certainement reconnu un extrait de l'histoire de Benjamin Button, de David Fincher avec Brad Pitt et Kate Blanchett, d'après une nouvelle de Scott Fitzgerald. Jean-Louis Fournier, vous qui écrivez, qui imaginez votre autopsie, Grégoire Delacour, vous qui imaginez une femme qui ne vieillit jamais, à jamais éternellement 30 ans. Au-delà du matériau romanesque, vous êtes séduit, vous, par cette idée, tiens, de remonter le temps, de se réinventer des chapitres, des rendez-vous manqués, les réécrire de...
Ben, si vous voulez, j'ai l'impression que quand on, comme Grégoire et moi, on utilise quand même beaucoup de notre vie, je crois qu'écrire, c'est justement faire des retouches à sa vie. Parce que nos vies sont quelquefois pas passionnantes. Et on essaie d'en faire quelque chose de pas mal. On colorise nos souvenirs.
Par l'écriture.
On raccourcit des trucs. C'est ça la chance qu'on a. C'est qu'on peut se refaire une vie.
Et on y croit?
Ouais.
Ah oui.
Eh ben oui, parce que moi, à la limite, ce qui est dans mes livres, c'est presque plus vrai que la réalité. Vous savez, la phrase formidable qui a été dite beaucoup, c'est Boris Vian à qui on demandait toujours, c'est vrai ça? Il dit, ben oui, c'est vrai, je l'ai inventé.
Ouais. C'est Vian ou Sullivan d'ailleurs.
C'est pas le fait du hasard. Dit ça. De tout ce qu'on invente, c'est extraordinaire. Ouais. Écrire, c'est un, on a une chance énorme d'écrire, d'être lu aussi.
Oui, tant qu'à faire.
C'est plus dur.
Grégoire Delacour,
c'est plus difficile.
Vous qui avez, qui valorisez la culture de l'échec, hein, comme vous dites, en disant, voilà, on peut, vous avez une première vie de pubeux, on peut être viré d'une boîte, se réinventer à 50 ans dans la littérature, échouer, avancer, bifurquer. Donc non, pas envie de réexplorer éventuellement des chapitres de votre vie en se disant, tiens, cet échec-là, je le gomme.
Oui, non. Moi, je rejoins Jean-Louis sur ce besoin, parce qu'au fond, c'est assez un besoin d'écrire, même si c'est une jubilation incroyable d'écrire. Il y a cette envie d'essayer de comprendre là où ça a craqué. Je me souviens d'un journaliste qui avait fait un papier sur mon travail au début, et qui avait dit, il y a toujours un enfant mort chez Delacour, et cet enfant séduit. Et j'ai pris ça mais comme un uppercut, j'avais pas... vu ça. Mm-mm. Et il y a toujours, là maintenant je mets toujours par clin d'œil comme petit Hitchcock qui passe comme ça. Et c'est vrai que je cherche un truc qui me manque. J'ai écrit et puis des babysitters, on disait des nounous à l'époque, qui me gardaient quand j'étais petit à Valenciennes, m'ont contacté, donc elles ont 70, 75 ans, elles me racontent et j'ai oublié des choses. Elles ont des photos de moi que j'ai jamais vues. Il y a comme ça tout un pan de mon enfance qui a disparu, qu'on m'a volé, que je ne sais pas, que je cherche, en tout cas à réparer, à reconstruire, et puis à être une assise solide pour l'homme que je suis devenu. Mais écrire me montre que les échecs sont beaux parfois, qu'on est obligé de les transfigurer. On peut pas être dans la colère, ça sert à rien. On peut pas être dans la violence. Il y a que l'amour, il y a qu'avancer, qui a du sens. Sinon, ce qui nous arrive, ces tuiles dont parlait Jean-Louis, elles n'auraient pas de sens.
Ouais, ouais.
Mais pour moi, c'est important de comprendre que la maladie, que même gagner au loto peut être une tragédie. Ne plus vieillir pour être en être une, peut-être.
Alors justement, on parlait tout à l'heure en début d'émission du cauchemar de l'éternité, en tout cas pour vous. Mais alors, comment vous, en tant que auteur, écrivain et en même temps citoyen, vous regardez tous ces fantasmes dont on parle beaucoup, de post-humanistes, des milliardaires de la Silicon Valley qui sont prêts à débourser en nouvelles technologies.
Ce sera pathétique, écoutez. Moi, j'étais réalisateur, moi, avant à la télévision.
C'est bien.
Il y a 30 ans, on a fait un documentaire sur la cryogénisation.
Oui.
Déjà, à l'époque, on congelait les morts pour pouvoir ressortir quand on aura trouvé de guérir ce pourquoi ils étaient morts. Et il y avait un calendrier très précis à partir de là. Tout ça était une espèce de fumisterie énorme, parce que en plus, c'était des assurances qui prenaient ça en charge. Donc elles allaient remettre de l'azote liquide dans les trucs comme ça. Ils n'avaient jamais remis d'autres. Tous les mecs étaient en train de pourrir. Il y avait Walt Disney qui pourrissait gaiement auprès de tout le monde. Tout ça, c'était une grande rigolade. Mais moi, alors, l'histoire, non, ça, c'est, toutes ces histoires-là...
Oui, mais attendez, ça soulève des vraies questions, hein. Parce que les futures luttes de classe, par exemple, ça pourrait être les riches immortels et les pauvres mortels, malades, vieux.
Il y a un très beau livre de...
Sans être dans la science-fiction, ouais. Hein, mais c'est le futur proche. Hein.
Ouais. Non, mais il y a un très beau livre qui s'appelle « Auprès de toi toujours » en français, qui est publié chez Gallimard, chez Folio, et qui raconte ça dans un collège anglais où il y a des gens extrêmement beaux, des jeunes très très beaux, qui sont élevés dans la bonne santé, avec du bon gras et de la bonne herbe. Je rigole, et beaucoup d'éducation, de culture, et qu'on va découvrir qu'ils servent de donneurs d'organes à des gens très riches. Donc c'est ça déjà.
Ouais.
Il y a eu en Angleterre, Stephen Frears avait fait un film assez terrifiant et glaçant là-dessus, sur les gens qu'on kidnappe pour leur piquer un rein, etc. etc.
Ouais.
Donc il y a tout, il y aura toujours l'argent, les gens qui, avec cet argent, qui voudront vivre plus longtemps, qui estiment qu'ils ont le droit de vivre plus longtemps, parce qu'ils ont du goût, etc. C'est un débat philosophique passionnant, droit par rapport à la vie, au temps dont on dispose. Moi j'ai plus envie de penser qu'il faut embellir, enrichir, intensifier le peu qu'on a, que d'essayer de faire durer quelque chose, parce qu'il faut voir dans quel état aussi on y arrive.
De toute façon, en toile de fond de votre fiction, La femme qui ne vieillissait pas, j'imagine aussi que c'est inspiré, ou peut-être ces utopies de jeunesse techno.
C'est même pas une utopie, je crois qu'il y a une vraie injonction de la société aujourd'hui. Il y a qu'à voir les magazines, on est dimanche, donc ça va sortir dans les jours qui viennent pour la semaine prochaine, les hebdos qui diront 20 ans de moins à la plage cet été, retrouver une silhouette de 15 ans, etc. Donc il y a une injonction à dire soyez jeune, parce que on croit que la beauté est la seule chose qu'une femme doit représenter. Et ça, c'est la jeunesse, c'est quand même incroyable. Alors qu'en même temps, dans les pages plus loin du magazine, on parlera de balance ton porc. Et moi, c'est ça qui me rend un peu triste, quoi, cette schizophrénie-là. Arrêtons de dépendre du regard des autres, quoi.
Jean-Louis Fournier, de toute façon, là, on écoutait tout à l'heure Benjamin Button, donc ce type, quelque part, qui est pas normal, qui rentre pas dans les dites cases de la normalité. Vous les aimez, les personnages imparfaits? Vous en avez fabriqué des...
Au contraire! Et au contraire, et toute cette histoire de le jeunisme et tout ça, il y a actuellement une publicité pour une crème, et c'est une fille qui est avec son copain, et sa mère arrive, et le copain dit « c'est ta mère ». Parce qu'elle elle fait plus jeune que sa fille.
Oui.
Enfin, non, on est dans le grotesque, plutôt. Puis il y a des crèmes qui vous font gagner 5 ans, 10 ans, qui vous retirent 99% des rides. Mais comment ils calculent? Ils comptent les rides?
Mais maintenant, tout est algorithme.
Moi, je suis de Libé qui a été titré à la mort de une américaine, Estée Lauder. Estée Lauder est morte avec ses rides.
Elle est morte avec ses rides.
Oui, j'ai trouvé ça très bien.
Ah oui,
parce que toute sa vie, la pauvre, elle a essayé de combattre ça. Non, voilà, il y a tout ça. Puis moi, venant de la pub, donc je suis un peu penaud par rapport à ça.
Ah bah oui, attendez.
Mais en même temps, je pense que... Et je suis pas d'accord, par exemple, avec De Gaulle qui disait que la vieillesse est un naufrage. Je trouve ça vachement triste, quoi, d'avoir
dit ça. C'est pas très marrant.
Et c'est dommage que
vieillir, quand tu verras, c'est pas aussi marrant.
Tu verras quand
on aura
ça.
Bon. Quand j'aurai 100 ans, comme Jean-Louis ce soir.
C'est quand même pas aussi marrant.
Non, je sais, mais arrêtons d'avoir peur de ça.
Et toujours avec l'humour qui vous caractérise, Jean-Mi Fournier, dans mon autopsie, que vous imaginez à la fin, vous imaginez aussi votre propre enterrement en vous demandant quand même est-ce qu'il y aura beaucoup de monde, genre jusqu'au bout quand même est-ce que
évidemment, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde.
Non, bon, je viendrai avec des figurants.
Tu viendras ?
Je viendrai avec des figurants, rassure-toi.
Ouais,
avec pour épitaphe, finalement, nous ne regretterons
pas.
Oui,
parce que ma femme est déjà partie avant moi. Elle a pris le train avant. Et j'ai marqué sur notre tombe, donc, finalement, nous ne regretterons pas d'être venus. Et c'est une tombe qui a, j'ai envie de dire, du succès, parce que les gens viennent regarder cette épitaphe, parce que toutes les autres épitaphes, c'est des espèces de poésie, tout meurt sauf les souvenirs, enfin, ce genre de poésie un peu kitsch. Là, au moins,
finalement.
En plus, je suis en face de des proches.
Ah ben, c'est pas par hasard, ça.
Ah ben non, j'ai demandé, quand ma femme est morte, elle a d'abord été dans un endroit comme ça, No Man's Land, et puis après on a cherché, et j'ai été convoqué par le gars du cimetière, il m'a dit, où vous voulez être? J'ai dit, je voudrais être près des proches.
Ah, c'est drôle.
Et alors, il m'a dit, oh, c'est des coins... C'est
des coins chers. C'est jusqu'au bout, il faut être pissuré.
Et puis finalement, ils ont trouvé un truc, et je... c'est du beau monde, hein, Chopin, Petrucciani... Chabrol.
Ça prend moins de place. Ouais.
Des proches, c'est pas.
Vous avez déjà imaginé.
Surtout qu'on va rester l'éternité ensemble, on a intérêt à être avec des compagnons de qualité.
C'est marrant, ton épitaphe me fait penser à un dessin de Sempé où il y a une épitaphe, alors ça doit être un fameux Lambert qui est mort, il y a la date de naissance et la date de son décès, l'épitaphe c'est fin de la première partie.
Ah ouais, c'est ça.
Ça, j'aime bien ça.
Ouais.
Ou enfin, en même temps, vous trichez quand même, hein, parce que dans votre bouquin, Jean-Louis Fournier, vous dites de toute façon, vous écrivez de toute façon, je m'en fous, demain c'est Pâques et je ressuscite.
Et c'est la pirouette. Exact, ouais. Parce que j'ai terminé ce livre Pâques dernier et vous voyez, je suis encore.
Ouais, voilà. Donc on parlait d'immortalité.
On y est là.
Il y est encore.
Dans 20 ans, il revient à l'émission. Hein.
Finalement, on regrette pas que vous soyez venu. C'est très bien.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.
Elle s'appelle Janelle Monáe sur France Inter.
France Inter.
Wow. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel?
Laurence Garcia.
Ah, Ah, on s'en pose des questions ce soir avec nos invités Jean-Louis Fournier et Grégoire Delacour. Messieurs, il est bientôt minuit. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, je vais vous demander... Vous êtes bien installé là, Jean-Louis Fournier? Voilà, bien près de votre micro. Vous voyez. Et maintenant, vous fermez les yeux. Schlaf. Ah oui, les deux. Vous me répondez, non, fermez les yeux, vous me répondez les yeux fermés dans votre noir intérieur. Jean-Louis Fournier, si vous pouviez, dans vos rêves les plus fous, recroiser cet ancien vous qui est certainement toujours là, ce gamin qui avait besoin de faire le pitre toujours pour exister à l'école, à l'église aussi. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul à ce môme? Quel conseil?
Je consolerai parce qu'il est vraisemblablement en larmes. Parce qu'il vient de faire une connerie et il s'est fait engueuler. Et je lui dirais, continue à faire des conneries. Ne fais jamais comme les autres. C'est la seule chose importante. C'est la seule... Ne fais jamais comme les autres. Si tu fais comme les autres, c'est pas la peine de le faire, ça a déjà été fait. Ne fais pas comme les autres. Je veux pas dire, ne fais pas mieux que les autres. Mais ne fais pas comme les autres. C'est ça être libre, c'est ne jamais faire comme les autres.
Les yeux fermés, Grégoire Delacour, vous pouvez justement vous recroiser ce môme qui était chez les pensionnaires, chez les jésuites, qui lisait d'ailleurs des livres de Pagnol où les familles s'aiment un peu mieux, se racontent d'autres histoires. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme-là?
Je lui apprendrai un peu la patience, que les choses arrivent et qu'il faut profiter de ce qu'on a parce que c'est rien de dur. Voilà, j'apprendrai ça, l'éphémérité des choses, et que c'est dans cette éphémérité, justement, qu'il y a la valeur des choses. C'est parce qu'elles ne durent pas qu'elles sont magnifiques.
Merci, messieurs. Vous pouvez réouvrir vos yeux. Ça va, bien rêver?
Je me suis endormi un petit peu, c'était bien agréable.
Pour continuer de rêver avec vous, c'est drôle, hein. C'est sombre, c'est noir, c'est Mon Autopsie chez Jean-Louis Fournier. Chez Jean-Louis Fournier, non, plutôt chez Stock, mais à moins que vous soyez une future maison d'édition, on va en reparler.
Quel enchaînement savant.
N'est-ce pas? La femme qui ne vieillissait pas, c'est signé Grégoire Delacour et c'est chez Lattès. Un beau portrait de femme, hein. Miroir dans mon miroir, dans ce miroir de la vie. Eh ben oui, non, mais on va peut-être en profiter parce que vous allez monter d'ici peu une collection qui s'appellerait Lettres commandées, peut-être pour un jour réaliser des rêves justement de futurs écrivains. Dites-nous tout en quelques mots.
Oui, Jean-Louis a réalisé un de mes rêves qui est non seulement d'avoir écrit, ça c'était le mien, mais de l'avoir rendu vivant ce livre. C'était L'écrivain de la famille en 2011, puisque c'est à Jean-Louis que j'avais adressé mon manuscrit, qu'il l'avait lu, il a dit je m'en occupe et il a rendu ce texte possible. Et puis après il y a eu deux textes et il a continué. Jean-Louis a aidé des gens discrètement comme ça, moi de mon côté aussi, autant que faire se peut, d'essayer d'aider des gens à réaliser ce rêve d'écrire.
Ah bah j'imagine quand même des futurs bouquins ou des futurs auteurs qui vous ressemblent un petit peu dans univers aussi.
Ah, qu'ils ne soient pas opposés.
Et différents.
Qu'ils ne soient pas ennuyeux.
Voilà. Et on a enfin décidé de réaliser un rêve qu'on avait, Jean-Louis et moi, c'est d'officialiser ces petits mariages entre nous pour à notre tour publier des auteurs. Voilà, donc on attend et l'être recommandé, ce sera 4, 5, 6 livres par an.
Et
chez Lattès, voilà. Et une collection dirigée par Jean-Louis et moi. Voilà, c'est la première fois qu'on l'annonce et on est très fiers de vous réserver, Laurence, cette primeur et ce rêve qui est là pour réaliser ceux des autres.
Des rêves collectifs. Merci beaucoup et on suivra cette aventure avec grand intérêt. À bientôt, messieurs.
À bientôt.
Merci à
bonne
vous.
Nuit.
Bonne nuit. Au revoir, dit-il. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec la photographe chasseuse d'épaves de cargo. Vous verrez, c'est très poétique. Elle s'appelle Francesca Piqueras et le documentariste écrivain Nadir Dandoun. Et bien sûr, oser rêver. L'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.